Chapitre 22. Les ténèbres absolues. Pas de lumière. Pas même le bleu des moniteurs ou les LED de l'équipement du laboratoire. Bon, on reste calme. Surtout, restons calmes.
Pourquoi pas rester calme, question?
Évidemment, il n'a rien remarqué puisqu'il n'a pas d'yeux. Le vaisseau vient de s'éteindre. Tout a cessé de fonctionner.
Votre équipement silencieux? Mon équipement toujours fonctionnel?
Votre équipement est alimenté par votre générateur. Le mien par mon vaisseau. Les lumières se sont éteintes, plus rien ne marche.
Mauvais, question?
Oui, très mauvais. Pour commencer, je n'y vois rien.
Pourquoi vaisseau désactivé, question?
Je ne sais pas. Vous auriez une lumière? Quelque chose qui pourrait éclairer le vaisseau à travers la xénonite?
Évidemment non.
Je tâtonne dans le noir. Progresse dans le laboratoire à l'aveugle. Où se trouve l'échelle conduisant à la salle de contrôle?
Gauche. Encore gauche. Encore. Oui, devant.
Ma main rencontre un barreau. Merci.
Stupéfaction. Humain impuissant sans lumière.
Eh bien oui. Suivez-moi dans la salle de contrôle.
Oui.
Je l'entends se déplacer dans son tunnel. Je monte dans des ténèbres tout aussi profondes. La salle de contrôle est comme morte. Les moniteurs sont éteints. Même le hublot du sas ne m'est d'aucune utilité, cette partie du vaisseau tournant le dos à Tossetti.
Salle de contrôle sans lumière, question?
Résonne la voix de Rockit dans son tunnel au plafond. Oui. Attendez. Je vois quelque chose. J'aperçois une petite LED rouge, pas très vigoureuse mais allumée. Je m'assieds dans le fauteuil du pilote et plisse les yeux. Le fauteuil bouge un peu. Mon travail de réparation a été médiocre, mais au moins est-il fixé au sol. Au lieu des moniteurs tactiles plats présents un peu partout, cette section précise est dotée de boutons physiques et d'un petit affichage LCD. La lumière provient d'un de ces boutons. Évidemment, j'appuie dessus. Qu'aurais-je pu faire d'autre? L'affichage LCD s'allume. Un texte au pixel énorme apparaît. Générateur primaire désactivé. Générateur secondaire désactivé. Batterie de secours 100%. D'accord. Mais je l'utilise comment, cette batterie de secours?
Progrès? Question?
Une seconde. J'examine l'écran LCD et je trouve. Un tout petit bouton recouvert d'une coque protectrice en plastique. BAT. Lis-je dessus. Je me contenterai donc de cela. Je soulève la coque et j'appuie dessus. Des LED s'allument un peu partout, éclairant faiblement la salle de contrôle. Le plus petit écran de la salle de contrôle, et lui seulement, revient à la vie. Le logo de la mission apparaît au milieu, puis tout en bas, les mots « chargement système d'exploitation ». « Succès partiel », réponds-je. « La batterie de secours est active. Les générateurs sont éteints, en revanche. »
« Pourquoi pas fonctionner ?» Question.
« Je n'en sais rien. »
« Votre air respirable ?» Question. « Sans électricité, pas de support vie. » « Humain transformé oxygène en dioxyde de carbone. » « Vous utilisez tout oxygène et risquez dommage ?» Question.
« Ça ira. Le vaisseau est assez gros. » Il s'écoulera beaucoup de temps avant que l'air devienne un problème. Toutefois, il est important que je comprenne la raison de cette panne.
Machine cassée. Vous montrez, moi réparer.
Ce n'est pas une mauvaise idée. Rocky semble capable de fabriquer à peu près n'importe quoi. Soit il est très doué, soit les Iridiens sont tous comme lui. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Mais comment se débrouillera-t-il avec de la technologie humaine? Peut-être. Mais je dois d'abord comprendre comment deux générateurs ont pu tomber en panne en même temps.
Excellente question. Plus important, vaisseau pilotable sans électricité, question.
Non, j'ai besoin d'électricité pour tout.
Question plus importante, combien de temps avant détérioration orbite, question.
Je ne sais pas, réponds-je en clignant deux fois des yeux.
Travaillez vite.
Ouais. Mais je dois d'abord attendre que mon ordinateur se réveille. dis-je en désignant le moniteur.
Vite, vite.
Oui, je vais me dépêcher d'attendre.
Sarcasme.
L'ordinateur finit de démarrer et affiche un message que je n'ai encore jamais vu. Je sais qu'il y a un problème parce que le mot « attention » est écrit en gros au milieu de l'écran. Oubliez les interfaces amusantes et colorées, les graphismes d'avant le blackout. L'écran affiche trois colonnes de texte blanc sur fond noir. Celle de gauche est en caractère chinois, celle du milieu en cyrillique, celle de droite en anglais. Dans des circonstances normales, je suppose que le vaisseau change de langue en fonction de la personne installée en face de la machine. Dans ce mode sans échec, on ne sait pas qui va lire le texte, d'où la multiplication des langues.
Nouveau, question.
L'écran affiche des informations.
Origine, problème, question.
Laissez-moi le temps de lire. Quand il est inquiet, Rocky peut être vraiment agaçant. Je lis le rapport d'état.
Batterie de secours activée.
Batterie 100%. Temps restant estimé, 04 jours, 16 heures, 17 minutes. Support vie sabatier, désactivé. Support vie par absorption chimique, activé. Durée limitée, non renouvelable. Contrôle température, désactivé. Température, 22 degrés. Pression, 40,071 PA. Le vaisseau me maintient en vie, mais ne fait rien d'autre pour le moment.
Données générateur, moi réparé.
Quand je l'aurai trouvé.
Pas savoir où trouver élément vaisseau.
Question. Demande Rocky en s'affaissant. Ces informations sont dans l'ordinateur. Je ne peux pas tout me rappeler.
Cerveau humain inutile.
Oh, fermez-la. Je redescends dans le laboratoire. L'éclairage d'urgence est allumé là aussi. Rocky me suit dans son tunnel. J'attrape ma sacoche à outils et me dirige vers l'échelle suivante. Rocky m'emboîte le pas.
Où aller? Question.
Dans la réserve. C'est le seul endroit que je n'ai pas complètement fouillé. Elle est dans le fond du compartiment habité. Si les générateurs sont accessibles par l'équipage, le passage doit être là. Une fois dans le dortoir, je me glisse dans la réserve. Mon bras me fait souffrir. Je parcours le fond pour inspecter la cloison qui nous sépare des réservoirs. Mon bras me fait encore plus souffrir. À ce stade, la douleur est constante. Aussi m'efforçais-je de ne pas y faire attention. Terminé les analgésiques, ils me rendent débile. Je m'étends sur le dos dans la réserve en attendant que la douleur se dissipe un peu. Il y a forcément des panneaux d'accès quelque part, non? Je ne me rappelle pas le plan détaillé du vaisseau, mais l'équipement le plus important se trouve probablement dans la partie pressurisée. Pour être accessible, non? Mais comment les trouver? J'aurais besoin de rayon X pour savoir où... En parlant de rayon X... Hé, Rocky, est-ce qu'il y a des portes là-dessous? Il est silencieux pendant quelque temps, puis il donne quelques coups de pince dans la paroi en xénonite.
Six petites portes.
Six? Mince. Dites-moi où se trouve la plus proche, demandai-je en posant la main sur le plafond de la réserve.
Déplacez main vers pied, puis à gauche.
Je suis ses instructions. Diable, ces portes sont difficiles à voir. L'éclairage de secours du dortoir n'est déjà pas très important et peu de lumière filtre dans la réserve. Le panneau est fermé par une vis à tête plate contrôlant un simple loquet que j'ouvre grâce à un tournevis courteau sorti de ma sacoche. Le panneau tombe, révélant un conduit équipé d'une valve. Coupure oxygène principale, lis-je sur une plaque. Je n'ai aucune intention de toucher à cela. Je referme donc ce panneau. Trappe suivante. Suivant les indications de Rocky, je vérifie les trappes une à une. Je sais qu'il est capable de voir à travers les parois avec son sonar, mais cela ne me satisfait pas. Je préfère voir de mes yeux ce qu'il y a derrière ces portes, plutôt que de me fier à ses descriptions dans notre langue commune un peu limitée. Nous trouvons ce que nous cherchons derrière la quatrième trappe. Le générateur est bien plus petit que prévu. Le placard tout entier mesure environ 30 cm de côté. Le générateur se trouve dans un boîtier noir irrégulier et je ne le reconnais que parce que c'est écrit dessus. J'avise deux épais conduits dotés de robinets, ainsi que quelques câbles électriques à l'apparence ordinaire.
« J'ai trouvé !»«
Excellent !» répond Rocky depuis le dortoir. « Démontez et donnez-moi pour réparation. »«
Je veux l'examiner d'abord. »«
Vous, mauvais, moi, réparé. » »«
Le générateur ne supportera peut-être pas votre environnement. »«
Grommelle-t-il. »
Les deux conduits équipés de robinets alimentent le dispositif en astrophage. J'examine un peu mieux le placard et je localise deux plaques, carburant et déchets. Cela semble assez clair. À l'aide d'une clé, je démonte le robinet des déchets. Un liquide noir s'écoule, quoique en très petite quantité, uniquement ce qui restait entre le robinet et l'extrémité du tuyau. Il doit s'agir du liquide que nous avons choisi pour évacuer les astrophages morts. J'en reçois un peu sur la main. C'est gras comme de l'huile. C'est une bonne idée. N'importe quel liquide aurait fait l'affaire, mais l'huile est plus légère que l'eau et ne corrode pas les conduits. Après cela, je dévisse le robinet du carburant. Cette fois, le liquide brun qui s'écoule se caractérise par une odeur horrible. Je grimace et enfouis mon visage dans mon coude.
Quelle horreur!
Problème? Question? Demande Rocky.
Le carburant sent mauvais.
Les iridiens n'ont pas d'odorat. Si j'ai eu beaucoup de mal à expliquer le sens de la vue à Rocky, il n'a eu aucun mal à saisir la notion d'odeur. Car les iridiens ont le sens du goût, et sentir n'est que goûter à distance.
Odeur naturelle ou chimique? Question?
Je renifle un peu avant de répondre. Ça sent la nourriture pourrie. Normalement, les astrophages ne sentent pas mauvais. Ils n'ont pas d'odeur.
Astrophages vivants. Astrophages pourrir aussi.
Les astrophages ne peuvent pas pourrir. Comment le pourraient-ils?
Oh non. Mon Dieu, non.
Je passe la main sur la matière puante avant de m'extirper de la réserve. Maintenant ma main en l'air pour ne pas souiller mon échantillon, je gravis l'échelle jusqu'au laboratoire.
Problème? Question?
Insiste Rocky en me suivant dans son tunnel.
Non,
protestai-je avant de conclure par un couinement. Mon cœur bat dans ma gorge. Je crois que je vais vomir. J'étale un peu de matière sur une lame que je place sous le microscope. En l'absence d'électricité, le rétroéclairage de l'appareil ne fonctionne pas. Aussi dois-je me contenter d'une lampe torche récupérée dans un tiroir. Je colle mes yeux aux oculaires et constate que mes pires craintes se sont réalisées.
Mon Dieu!
Problème, question?
Demande Rocky d'une voix plus haut perchée que la normale. Je me prends la tête à deux mains, me maculant de matière puante. Mais cela n'a aucune importance.
Les taumibes! Il y a des taumibes dans le générateur!
Endommagé générateur, question? Donné générateur, moi réparé?
Le générateur n'est pas endommagé. S'il y a des taumibes dans le générateur, ça signifie qu'il y en a dans le carburant.
Les taumibes ont mangé les astrophages. Il n'y a plus d'électricité parce qu'il n'y a plus de carburant.
Rocky soulève sa carapace si brusquement qu'il se cogne au plafond de son tunnel.
Comment taumibes entrer dans réservoir? Question.
Il y en a dans mon laboratoire. Je ne les ai pas enfermées. Certaines se sont sans doute échappées. Et il y a des fissures dans le vaisseau, des trous et des fuites depuis que nous avons failli mourir au-dessus d'Adriane. Il suffit d'un tout petit trou dans un tuyau d'alimentation, et il suffit également d'une seule taumibe.
Mauvais.
Je me mets à hyperventiler. Nous allons mourir dans l'espace. Nous allons rester ici pour toujours.
Pas pour toujours.
Comment ça? Demandai-je en relevant la tête.
Non. Bientôt orbite dégradée. Alors nous mourir.
Je passe toute la journée suivante à examiner les tuyaux d'alimentation auxquels j'arrive à accéder. Le résultat est le même partout. Au lieu d'astrophages suspendus dans de l'huile, je trouve des taumibes et, appelons les choses par leur nom, du caca de taumibes. Surtout du méthane avec quelques traces de composés divers. Cela explique la présence de méthane dans l'atmosphère d'Adriane, je suppose. Le cycle de la vie, tout ça.
Il y a quelques astrophages vivants ici et là, mais ils ne dureront pas longtemps au milieu de tomib voraces. Inutile d'essayer de les sauver. Autant chercher à récupérer de la viande comestible dans un steak infesté de toxines botuliques.
C'est sans espoir, dis-je en laissant tomber mon dernier échantillon de carburant sur la table du laboratoire.
Les tomib sont partout.
Avoir encore astrophages de mon côté? Environ 216 grammes?
Avec ça, mes moteurs tournants ne fonctionneraient pas très longtemps. Peut-être 30 secondes. Ils ne survivraient sans doute pas. De mon côté, il y a des tomib partout. Gardez ce qui vous reste en sécurité.
Fabriquer nouveaux moteurs. Tomib transformer astrophage en méthane. Réagir avec oxygène. Produire feu et pousser. Rejoindre mon vaisseau. Beaucoup astrophage là-bas.
Ce n'est pas une mauvaise idée, lui concédai-je en me pinçant le menton. Se propulser dans l'espace avec des pets de tomib?
Pas comprendre mot avant tomib.
Ce n'est pas important. Attendez, je fais quelques calculs. Je vais chercher une tablette, car l'ordinateur du laboratoire ne fonctionne toujours pas. Je ne connais pas l'impulsion spécifique du méthane, mais je sais qu'une réaction hydrogène-oxygène est d'environ 450 secondes. Ce serait le meilleur des cas. J'avais 20 000 kg d'astrophages, dont nous allons supposer qu'ils ont été remplacés par du méthane. La masse sèche du vaisseau est de 100 000 kg. Je ne suis pas certain d'avoir assez d'oxygène pour cette réaction, mais oublions cela pour le moment. La concentration est un problème constant. Je suis groggy et j'en suis conscient. Je pianote sur l'appli de calcul et je secoue la tête. Ce n'est pas bon. La vélocité du vaisseau ne serait que de 800 mètres par seconde. Avec ça, on ne pourra pas échapper à l'attraction d'Hadriane. Encore moins parcourir 150 millions de kilomètres dans le système de Tau-Ceti.
Mauvais.
Oui, mauvais, confirmai-je en lâchant la tablette sur la table et en me frottant les yeux. J'entends ses pattes cliqueter dans son tunnel. Il s'arrête juste au-dessus de moi.
Données, générateur.
Pourquoi, m'enquiers-je, les épaules tombantes. À quoi ça servirait?
Nettoyer et stériliser. Retirer tomib. Fabriquer petit réservoir pour mes astrophages. Sceller générateur, hermétique. Vous installer sur vaisseau. Recouvrer électricité.
Ouais, dis-je en frottant mon bras endolori. C'est une bonne idée, si le générateur ne fond pas dans votre atmosphère.
Si fondre, réparer.
Quelques centaines de grammes d'astrophages ne nous permettront pas de nous balader dans la galaxie. Mais au moins aurais-je de l'électricité pour... Pourquoi au juste? Pour vivre mes dernières heures. D'accord, d'accord, c'est une bonne idée. Au moins on aura les commandes du vaisseau.
Oui.
Je vais chercher le générateur, conclus-je en me dirigeant vers la trappe. Vu mon état, je ne devrais pas utiliser d'outils, mais je n'ai pas le choix. Je traverse le dortoir, me glisse dans la réserve où je démonte le générateur. Ou bien est-ce le générateur de secours? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, il transforme les astrophages en électricité et c'est tout ce qui compte. Je retourne dans le dortoir avec la machine que je place dans notre sas. Rocky le pressurise et récupère le générateur qu'il pose sur son établi. Avec deux de ses pinces, il se met aussitôt au travail. D'une troisième, il désigne mon lit.
Pendant que moi travaillais, vous dormir.
Faites attention de ne pas contaminer vos astrophages avec des tomib.
Astrophages enfermés dans boîte xénonite, pas d'inquiétude. Maintenant, dormir.
J'ai mal partout, surtout à mon bras bandé. Je n'ai pas envie de dormir.
Vous dire humain besoin dormir 8 heures après 16 heures,
insiste-t-il en me pointant plus fermement de sa pince.
Vous pas dormir depuis 31 heures. Dormir maintenant.
Je m'assieds sur mon lit en poussant un soupir. Vous avez raison. Je devrais au moins essayer. La journée a été difficile. Ou la nuit, peu importe. A hard day's night. Je m'allonge et me couvre.
Pas comprendre dernière phrase.
Ça vient d'une chanson.
Je ferme les paupières et marmonne.
And I've been working like a dog.
Je sombre doucement dans le sommeil et il s'écoule un temps indéterminé.
Hé !
Lâchai-je en me redressant tout à coup.
Les scarabées !
Problème ? Question ?
S'exclame Rocky en laissant tomber le générateur sur son établi.
Il n'y a pas de problème, plutôt une solution. Dans mon vaisseau, il y a 4 tout petits vaisseaux appelés scarabées. Ils sont censés retourner sur Terre avec des informations.
Déjà dit, scarabées utilisés même carburant que vaisseau. Astrophages tous morts.
Ils fonctionnent avec des astrophages, confirmai-je en secouant la tête. Mais ils sont parfaitement autonomes. Ils ne partagent pas d'air ni de carburant avec le Dernière Chance. Chaque scarabée contient 120 kg d'astrophages. Nous avons plein de carburant.
Assez pour rejoindre mon vaisseau,
commente Rocky en agitant une pince.
Bonne nouvelle, bonne.
Peut-être n'allons-nous pas mourir, dis-je en agitant aussi la main. Je dois effectuer une AEV pour récupérer les scarabées. Je reviens tout de suite. Je saute de mon lit et fonce vers l'échelle.
Non,
lance Rocky en se précipitant vers la paroi transparente qui nous sépare et en tapotant dessus.
Vous dormir, humain mal fonctionné sans sommeil, AEV grand danger, d'abord dormir, AEV après.
D'accord, lui concédai-je en levant les yeux au ciel.
Dormir,
insiste-t-il en montrant mon lit.
Oui, maman.
Sarcasme, vous dormir, moi observer.
Je ne suis plus aussi sûr qu'il s'agisse d'une bonne idée, dis-je dans la radio.
Accomplir mission,
répond Rocky impitoyable. J'ai bien dormi et je me suis réveillé en forme. J'ai pris un bon petit déjeuner, fait quelques étirements. Et puis Rocky m'a montré son générateur scellé et parfaitement fonctionnel. Un générateur capable de fonctionner éternellement. Je l'ai installé sans attendre et l'électricité est revenue comme prévu. Rocky et moi avons alors discuté de la meilleure façon d'utiliser les scarabées pour retourner au spot A, et cela semblait vraiment une excellente idée. Jusqu'à ce moment précis. Je me tiens dans le sas, équipé pour une AEV, tourné vers le vaste néant de l'espace. Adriane nous baigne, le vaisseau et moi, de sa lumière verdâtre. Et puis la planète disparaît, et je me retrouve dans les ténèbres. Pas pour longtemps cependant, car la planète réapparaît 12 secondes plus tard, au sommet de mon champ de vision. Le Dernière Chance tourne sur lui-même, ce qui est problématique. Le vaisseau est équipé de petits moteurs sur les flancs qui lui permettent de tournoyer pour générer une pesanteur artificielle. Évidemment, il ne fonctionne pas, étant empli de caca de Tomib, comme le reste. Une fois de plus, je vais donc effectuer une AEV en étant soumis à la pesanteur. Non pas dû à la gravitation d'Adriane, mais à la force centripète du vaisseau qui menacera de me projeter dans le vide. Toutes les morts se valent, vous me direz. Pourquoi cette sortie-ci me fait-elle plus peur que celle que j'ai faite pour récupérer l'échantillon d'atmosphère d'Adriane? Parce que cette fois, je vais devoir rester en équilibre sur le nez de l'appareil. Un faux mouvement, et ce sera la mort. Lorsque j'ai récupéré l'échantillon, je suis resté tout contre la coque. J'étais assuré par des filins et il y avait des poignées partout autour de moi. Malheureusement, les scarabées sont rangés dans le nez du navire. Celui-ci est orienté vers la moitié inférieure du vaisseau, car c'est la manière dont la centrifugeuse fonctionne. Cela met les scarabées au sommet du compartiment habité, du point de vue de la pesanteur centripète. Il me faudra monter tout là-haut, ouvrir le nez et en sortir les petits appareils. En évitant de glisser, évidemment. Il n'y a pas de point d'ancrage sur le nez. Aussi vais-je devoir m'accrocher à un point situé plus bas. Ce qui signifie qu'en cas de chute, je vais prendre pas mal de vitesse avant que le filin se tende. Tiendra-t-il? Dans le cas contraire, la force de la centrifugeuse me projettera dans l'espace et je deviendrai une nouvelle lune d'Adriane. Je vérifie les filins pour la 3e fois. Par sécurité, il y en a 2. Ils sont solidement accrochés dans le sas et à ma combinaison. Ils devraient résister à la force d'une chute éventuelle. Devraient. Je sors,
J'agrippe le sommet du sas et je me hisse sur la coque. Dans une pesanteur de 1G et avec tout mon matériel, je n'y serais jamais arrivé. L'inclinaison du nez est douce, aussi le risque de glissade est-il limité. Je vérifie une dernière fois les filins, puis je commence mon ascension. La force centrifuge me pousse constamment sur le côté. Tous les 2 ou 3 pas, je m'arrête et laisse la friction avec la coque stopper mon mouvement latéral.
État, question.
J'avance.
Bien.
J'atteins le nez. La pesanteur artificielle est plus faible ici, car je suis plus près du centre de rotation. C'est déjà cela. L'univers tourne lentement autour de moi toutes les 25 secondes. La moitié du temps, Adriane emplit la totalité de mon champ de vision. Après quoi, Tau Ceti brille de 1000 feux pendant quelques secondes, et puis plus rien. C'est déconcertant mais supportable. Un peu embêtant seulement. Je trouve la trappe des scarabées là où elle doit être. Je vais devoir faire preuve d'une extrême prudence, surtout ne rien casser. Car tout était prévu pour une mission suicide. Le dernier chance n'est pas censé rentrer à la maison. Le mouvement d'ouverture implique un peu de pyrotechnie. La porte doit être projetée vers l'extérieur, permettant au scarabée de sortir pour trouver le chemin de la terre. Le système est bon, mais je vais avoir besoin de cette trappe pour le chemin du retour. Question d'aérodynamisme. Oui, d'aérodynamisme. Le dernier chance semble tout droit sorti d'un roman de Robert A. Heinlein. Coque argentée et lisse, nez en cône affûté. Pourquoi ce profil aérodynamique pour un vaisseau qui n'est pas supposé rencontrer une atmosphère? À cause du médium interstellaire. Il y a un tout petit peu d'hydrogène et d'hélium dans l'espace. Environ 1 atome par centimètre cube, ce qui n'est pas grand-chose. Quand on vole à une vitesse proche de celle de la lumière, ce n'est pas négligeable cependant. Parce que vous heurtez un certain nombre d'atomes, mais aussi parce que ces atomes, dans votre cadre de référence inertielle, pèsent plus que la normale. La physique relativiste est bizarre. Bref, pour faire simple, j'ai besoin d'un nez intact. La plaque et son système explosif sont fixés à la coque par 6 boulons. Je décroche une clé à cliquet de mon ceinturon et je me mets au travail. Dès que j'ai fini de desserrer le premier boulon, celui-ci glisse sur le nez avant de disparaître au loin.
Rocky, vous pourriez fabriquer des boulons?
Oui, facile. Pourquoi, question?
J'en ai perdu un.
Mieux tenir boulon à l'avenir.
Comment?
Utiliser main.
J'ai déjà une clé dans la main.
Utiliser deuxième main.
Elle est posée sur la coque pour me stabiliser.
Utiliser troisième. Récupérer scarabée. Après, fabriquer nouveau boulon.
D'accord.
Je m'active sur le deuxième boulon en faisant plus attention, terminant de le desserrer à la main. Évidemment, les gants épais de la combinaison d'AEV ne me facilitent pas la tâche. Ce deuxième boulon me prend 10 bonnes minutes. J'y parviens néanmoins, et je ne perds pas le boulon que je range dans une poche. Il servira de modèle à Rocky. Je desserre les autres boulons avec la clé, et je les laisse disparaître dans le vide. Ils resteront en orbite autour d'Adriane pendant quelque temps, mais pas éternellement. La faible traînée aérodynamique à cette altitude les ralentira progressivement jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber et brûler dans l'atmosphère. Lorsqu'il ne reste qu'un boulon, je soulève un peu le coin opposé de la plaque pour glisser un doigt en dessous. Je passe un filin à travers un des trous dans la coque, puis je le fixe à ma ceinture. Désormais, je suis assuré par 4 points d'attache, ce qui me va très bien. Je ressemble peut-être un peu à Spider-Man, mais je m'en moque. J'ai à la ceinture 2 filins supplémentaires, juste au cas où. On n'a jamais trop de filins. Je desserre le dernier boulon et laisse la plaque glisser sur le nez. Je la laisse me dépasser, puis je la regarde s'arrêter au bout du filin, rebondir quelques fois sur la coque et se balancer doucement. Je regarde dans le compartiment. Les scarabées sont bien là. Chacun à sa place. Les 4 petits vaisseaux sont identiques, à l'exception du nom gravé sur le réservoir.
J'avise donc John, Paul, George et Ringo.
État, question.
Je récupère les scarabées.
Je commence par John. Il est maintenu en place par une petite pince que j'ouvre sans difficulté. Sous la sonde, il y a une bouteille d'air comprimé dont la buse pointe vers le haut. Le système d'éjection des scarabées, qui ne pourront mettre en route leur moteur tournant qu'après s'être éloignés du vaisseau. De fait, même un tout petit et mignon moteur tournant vaporiserait tout ce qui se trouverait derrière lui.
John se détache sans difficulté. Il est plus gros que dans mes souvenirs, de la taille d'une valise. Bien sûr, tout est trop grand quand on porte des gants épais. Ce bon vieux John n'est pas léger. Dans la pesanteur terrestre, je ne serais peut-être même pas capable de le soulever. Je l'accroche à l'un de mes filins avant de me tourner vers Paul.
Lorsqu'il le faut, Rocky est capable de travailler très vite. Et il le faut, justement. Nous suivons une orbite douteuse. À présent que les ordinateurs et les systèmes de guidage fonctionnent, je suis en mesure de contempler le tracé, et il n'est pas joli joli. Il est très elliptique et passe bien trop près de la planète. Toutes les 90 minutes, nous frôlons l'atmosphère. À cette altitude, c'est à peine quelques molécules d'air ici et là, mais qui suffisent à nous ralentir un peu. De ce fait, à notre passage suivant, nous avons perdu un peu d'altitude. Bref, vous imaginez aisément comment cela va se terminer. Toutes les 90 minutes, donc, nous effleurons l'atmosphère, et honnêtement, je ne sais pas combien de fois nous pourrons le faire. Pour une raison qui m'échappe, l'ordinateur n'a pas de modèle pour les orbites bizarrement elliptiques autour d'Adrian. Donc, ouais, Rocky doit travailler vite. En 2 heures, il a démonté Paul et compris plus ou moins comment il fonctionnait. Notez que cela n'a pas été facile. Avant de transférer Paul dans la zone de Rocky, on a dû fabriquer une boîte de refroidissement spéciale. Il y a, à l'intérieur des sondes, quelques pièces en plastique qui ne supporteraient pas l'atmosphère iridienne. Heureusement, nous avons des astrophages. Ceux-ci sont trop chauds pour la peau humaine, mais pas assez pour faire fondre du plastique. Ils n'ont aucune difficulté à absorber le surplus de chaleur et maintenir une température de 96 degrés. Il y a beaucoup d'électronique et de circuits divers dans le ventre de Paul. Rocky a un peu de mal à les suivre, car les iridiens sont bien moins calés que nous en la matière. Ils n'ont pas encore inventé le transistor, et encore moins le circuit intégré. Travailler avec Rocky revient à avoir le meilleur ingénieur des années 1950 à bord. Une espèce qui invente le voyage interstellaire avant le transistor, cela peut paraître bizarre. Mais après tout, nous avons nous aussi inventé l'énergie nucléaire, la télévision et même des engins spatiaux avant de développer le transistor. 1 heure plus tard, il a contourné tous les contrôles informatiques. Il n'a pas besoin de les comprendre pour cela, il suffit d'identifier les fils dans lesquels injecter du courant. Il a bricolé le moteur tournant de façon qu'il soit activable à distance via un signal audio. Là où nous utilisons les communications numériques par radio sur des courtes distances, les iridiens emploient des sons. Il répète le processus avec Ringo et John. Comme il a déjà tout compris, cela va beaucoup plus vite. Mais il y a aussi George. Les petits scarabées ne produisent pas beaucoup de poussées, aussi nous en faut-il plusieurs. Toutefois, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre tous nos œufs dans le même panier. George ne sera donc pas modifié et restera prêt à remplir sa mission originelle. Grâce à Rocky, il se peut que je survive à ma mission. Mais rien n'est garanti. Le dernière chance n'est pas en très bon état, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai perdu plusieurs réservoirs de carburant, il y a des dégâts et des fuites un peu partout. Et je ne parle même pas des tomibes qui traînent dans tous les coins, prêtes à dévorer le carburant dont me ferait cadeau Rocky. Mon retour vers la Terre pourrait très mal se terminer, et ce, d'une bonne centaine de manières différentes. Avant de partir, je lancerai George avec toutes les données recueillies durant ma mission et quelques tomibes. J'aurais bien sûr préféré expédier une seconde sonde au moins, mais nous avons besoin de 3 scarabées pour propulser le vaisseau sur la trajectoire de notre choix. Rocky met les 3 scarabées modifiés dans le sas afin de les transférer de mon côté.
« Maintenant, montez sur coque, »
dit-il.
« 45 degrés par rapport axe vaisseau. »
« Entendu, » acquiesçai-je dans un soupir. « Une AEV de plus sur un vaisseau qui tourne. Super. » « Nous n'avons pas le choix, cependant. Impossible de stopper la rotation sans pousser. » J'effectue donc l'AEV. Le plus difficile consiste à atteindre la zone choisie. Le sas est proche du nez, et j'ai besoin de transporter les scarabées jusqu'à la section arrière du vaisseau, lequel est divisé en 2 parties connectées par 5 câbles. Apparemment, les concepteurs du vaisseau avaient pensé à cette éventualité, car il y a des boucles le long de ces câbles, auxquels il est possible d'accrocher des filins. Normalement, les AEV se font en apesanteur. Une fois de plus, ce n'est pas le cas, mais je m'en accommode de mieux en mieux. Au contraire du nez du vaisseau, l'arrière est pourvu d'une multitude de poignées. Aussi n'ai-je pas besoin cette fois de danser avec la mort. Le montage des scarabées est plutôt aisé. Il me suffit de les attacher à des poignées, pendant que la colle à base de xénonite de Rocky sèche pour former un lien permanent. À la fin, John, Paul et Ringo sont fixés autour de la coque et inclinés à 45 degrés par rapport à l'axe du vaisseau. « Scarabée installé !» annonçai-je par radio. « Je vais inspecter les zones endommagées. »«
Parfait !» répond Rocky.
Je me dirige vers la partie détruite par la rupture de réservoir. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je me suis débarrassé des réservoirs incriminés. Une ouverture rectangulaire marque l'emplacement des réservoirs manquants. La zone entourant le trou raconte l'histoire d'un traumatisme. Des balafres noirs et brûlés gâchent les plaques d'une coque autrement immaculée. Je remarque très vite que 2 plaques voisines sont gondolées. Certains panneaux sont déformés. Il y a des traces de combustion. Rien de trop grave.
Excellente nouvelle.
La présence de traces de combustion m'étonne un peu. Je ne comprends pas.
Chaleur intense.
Oui, mais il n'y a pas d'oxygène, nous sommes dans l'espace. Comment est-ce que ça a pu brûler?
Hypothèse. Beaucoup astrophages dans réservoir. Certains sans doute morts. Astrophages morts contiennent eau. Astrophages non immunisés contre chaleur. Eau et grande chaleur deviennent oxygène et hydrogène. Oxygène et chaleur provoquent brûlure.
Oui, c'est une bonne théorie.
Merci.
Je traverse de nouveau le pont de corde spatiale formé par le câblage pour retourner dans le sas sans autre incident. Rocky m'attend dans son bulbe de la salle de contrôle.
Tout normal? Question?
Oui. Les contrôles de John, Paul et Ringo fonctionnent-ils? Rocky tient 3 télécommandes identiques dans 3 de ses mains. Les appareils sont reliés par des câbles à un haut-parleur microphone fixé à l'intérieur de la coque.
« Communication établie »,
répond-il en tapotant un affichage avec une 4e main.
« Scarabée fonctionnel est prêt ?»
Je m'installe et me sangle dans le fauteuil du pilote. La prochaine étape va être assez inconfortable. Nous avons positionné les scarabées à 45 degrés par rapport à l'axe du vaisseau afin de pouvoir orienter ce dernier correctement. Cela nous permettra également de contrôler la rotation du dernier chance. Cependant, nous ne pourrons utiliser les scarabées que lorsque le vaisseau sera en un seul morceau. Aussi convient-il de rassembler d'abord les 2 moitiés. La conservation de l'inertie rotatoire étant ce qu'elle est, le navire va tourner très vite sur lui-même. Il tournera aussi vite que la fois où Rocky s'est sacrifié pour me sauver. Dans ce temps, nous n'avons ni gagné, ni perdu en inertie. Je fais apparaître l'écran de la centrifugeuse sur l'écran principal. Enfin, juste au-dessus de l'écran principal originel, détruit par notre petite aventure au-dessus d'Adriane. Le nouveau moniteur fera très bien l'affaire. Vous êtes prêt?
Oui.
L'accélération va être violente. Pour vous, ce ne sera rien, mais ce sera très dur pour moi. Il se peut que je perde connaissance.
Dangereux pour humain? Question?
Demande-t-il d'une voix légèrement tremblotante. Un peu. Mais ne vous en faites pas. Si je perds connaissance, essayez de stabiliser le vaisseau. Je me réveillerai quand nous ne tournerons plus. Compris,
dit-il en préparant les trois télécommandes.
On y va.
Je bascule la centrifugeuse en mode manuel et ferme trois messages d'alerte. Tout d'abord, je fais pivoter le compartiment habité à 180 degrés. Comme la fois précédente, je prends mon temps. Contrairement à la fois précédente, en revanche, j'ai pris mes précautions et tout préparé. Quand le monde tourne et que la pesanteur change de direction, le labo et le dortoir ne sont pas transformés en dépotoir. L'accélération d'un demi-g me pousse vers le tableau de bord. Le nez ne pointe plus vers l'intérieur du vaisseau. J'ordonne ensuite l'embobinement des câbles sans me soucier de la vitesse de rotation du vaisseau. Les icônes me montrent que les câbles se raccourcissent, comme prévu. La force que mon corps exerce sur les sangles du fauteuil augmente. Au bout d'une dizaine de secondes seulement, j'encaisse 6G et je peux à peine respirer. Je suffoque et m'agite.
« Vous pas en bonne santé,
Queen Rocky.
Stoppez tout, trouvez nouveau plan. »
Comme je ne peux pas parler, je secoue la tête. Je sens la peau de mon visage s'étirer sur mes joues. Je ne dois pas être beau à voir. La périphérie de mon champ de vision s'assombrit. La fameuse vision en tunnel dont tout le monde parle. Le nom est bien trouvé. Le tunnel s'assombrit encore et encore, et puis tout devient noir. Je me réveille quelques instants plus tard. Enfin, je crois. Mes bras flottent librement et seuls mes sangles m'empêchent de voler en me cognant partout.
Grace, allez mieux, question ?
Je me frotte les yeux. Je vois flou et je me sens groggy.
Ouais. État ?
Rotation zéro. Très difficile contre les scarabées. Correction. Facile contre les scarabées. Difficile contre les vaisseaux propulsés par scarabées.
Mais vous avez réussi. Excellent travail.
Merci.
Je détache mes sangles et m'étire. Apparemment, je n'ai rien de cassé. Pas de blessure à part mon bras brûlé. La pesanteur recouvrée me fait du bien. J'ai mal partout, mais je commence à m'habituer. J'ai fourni beaucoup d'efforts physiques et je me remets à peine de mes blessures. Au moins, la pesanteur n'est-elle plus là pour ajouter un stress à mon corps. Je fais défiler les écrans sur mon moniteur.
Tous les systèmes sont opérationnels. Pas de dégâts supplémentaires.
Bien. Action prochaine, question.
Je vais devoir faire des calculs. Beaucoup de calculs.
Il va s'agir de déterminer la durée et l'angle de la poussée en utilisant les scarabées comme moteur.
Bien.